Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Effectivement, à l'approche des fêtes de Noël, c'est au chocolat sous toutes ses formes que Franck Ferrand a choisi de consacrer son émission d'aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour cher Franck.
Bonjour chère Julia, bonjour à tous. Vous aimez le chocolat vous, Julien?
Écoutez, j'adore ça.
Bah oui, comme beaucoup de nos auditeurs, si
avec
j'en
modération.
Crois, les messages qui nous arrivent, mais vraiment en avalanche, c'est assez extraordinaire, cette passion nationale pour le chocolat. Près de 400 000 tonnes de chocolat sont englouties dans nos gosiers gourmands chaque année, rien qu'en France. C'est une part importante de la consommation mondiale. On produit environ 4 millions de tonnes de cacao chaque année dans le monde, ce qui fait quand même du chocolat le troisième marché de denrées après le sucre et le café. Il est vrai qu'en France, le chocolat se consomme volontiers noir et assez pur, alors que dans la plupart des autres pays, on le préfère au lait et mélangé à d'autres produits. Alors au-delà des quantités, on peut parler donc d'un engouement, d'une passion nationale, passion qui elle aussi a son histoire.
Et voilà qui tombe bien, puisque ce soir même à la Gare du Nord sera inauguré un TGV Expo consacré au chocolat.
En effet, un TGV qui a l'air d'être en chocolat et qui présente ce produit sous toutes ses formes avec des animations d'Yves Turiès en personne. Yves Turiès est avec nous dans le studio Coluche et nous avons aussi invité l'une des plus grandes chocolatomanes du pays, Catherine Khodorowski. Grâce à eux, d'ici à une heure, l'histoire du chocolat n'aura plus de secret pour nous.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Cette boisson est une si noble confection qu'elle est, plutôt que le nectar ou l'ambroisie, la vraie nourriture des dieux et qu'elle mériterait d'être mieux divinisée que les champignons de l'empereur Claudius, déclarait un certain docteur Blanchot au début des années 1680. C'était en plus dans sa thèse de doctorat de médecine, vous imaginez. Ce médecin fait allusion à l'empoisonnement de l'empereur Claude par des champignons, à l'instigation d'Agrippine, vous vous souvenez? Drôle dommage quand on y songe. Cela me rappelle une conférence de Bernard Catelat à laquelle j'assistais au milieu des années 80 et qui se terminait par ces mots: le chocolat est un neuroleptique puissant et si les mères de famille savaient ce qu'elles administrent à leurs enfants, je vous prie de croire qu'elles y regarderaient à deux fois. Des avis aussi contraires, tranchés et manifestement excessifs donnent une idée des passions déchaînées par cet aliment mythique qui du reste est apparu en Europe sous forme de breuvage. Le chocolat, on disait d'ailleurs à l'époque chocolate. Depuis une vingtaine d'années, le chocolat est devenu, et spécialement en France, une sorte de produits talismaniques, préparés, servis de plus en plus purs, de plus en plus noirs, de plus en plus fins, dans des chocolateries sans cesse plus raffinées qui offrent des ganaches aux saveurs inouïes, chaque année plus audacieuses. Les grands restaurants proposent maintenant des sauces au chocolat salé. Certains salons proposent des dégustations de grands crus de cacao. On fait toutes sortes de comparaisons. Mais ces plaisirs d'esthète sont encore loin de concurrencer la bonne vieille tablette de chocolat croqué devant la télé, ni les monceaux de confiseries industrielles vaguement chocolatées qu'ingurgitent les enfants de manière plus ou moins compulsive. Je sais ce que c'est, j'en ai sous les yeux très souvent. En vérité, ce très puissant retour en faveur du chocolat ne doit pas nous faire oublier ces vogues passées, d'autant plus vives qu'elles s'autorisaient de toute une réputation de remèdes et de reconstituements associés au chocolat. Voici ce qu'écrivait par exemple le grand gastronome Brillat Savarin, vous savez, à propos du chocolat. « Que tout homme qui aura bu quelques traits de trop à la coupe de la volupté, que tout homme qui aura passé à travailler une portion notable du temps qu'on doit employer à dormir, que tout homme d'esprit qui se sentira temporairement devenir bête, que tout homme qui se sera tourmenté d'une idée fixe qui lui ôtera la liberté de penser, que tout cela, disons-nous, s'administre un bon demi-litre de chocolat ambré et ils verront merveille. » Ce serait bien de mettre tout ça au féminin d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et il suffit de voir les messages de nos auditrices. On pourrait dire que toute femme, que toute femme, que toute femme, et que toutes celles, elles verront merveille. Pour mettre tout le monde d'accord, je dirais que parler du chocolat n'a jamais fait de mal à personne et peut se faire sans modération d'aucune sorte. Nous allons donc évoquer les origines du chocolat en cette heure du café et des mignardises, raconter l'arrivée du chocolat en Europe et en France et vous révéler toutes les formes qu'il a pu y prendre depuis 4 siècles et plus. Et par un clin d'œil au temps, déjà presque lointain, où cette chanson tombait régulièrement dans nos émissions comme un cheveu sur la soupe, je vais même m'offrir le plaisir de lancer en situation cette fois, la célèbre chanson d'Olivia Ruiz, La femme chocolat.
Et trie-moi les hanches de bébé.
les hanches à l'âge, j'ai trop mangé de chocolat. Olivier Ruiz sur Europe 1, à tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités, Franck sur Europe 1, Yves Turiès, qui est maître chocolatier, élu deux fois meilleur ouvrier de France. Il est membre élu à l'Académie française du chocolat et de la confiserie. Et également avec nous, vous l'avez dit tout à l'heure, Catherine Khodorowski, qui est historienne et sociologue de l'alimentation. Son dernier livre, Tout sur le chocolat, écrit avec Hervé Robert, est disponible chez Odile Jacob.
Avec une couverture, ce livre Tout sur le chocolat, et c'est très spectaculaire hein, pour ceux qui aiment ça.
Véritablement envie.
Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être venu. Alors, Yves Turiès, nous sommes très honorés de vous recevoir. Vous en avez fait des chocolats. On peut même plus calculer combien, depuis très longtemps, depuis toujours quasiment.
Depuis toujours, oui, bien sûr. Et puis, vous savez, le nombre, bien sûr, c'est quelque chose qui ne pèse pas beaucoup, le chocolat. Donc, on en fait beaucoup. Dans un kilo, il y en a déjà beaucoup.
Et oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une période... Oui, je pense qu'au moment des fêtes de Noël, ça prend des proportions...
Oui, je crois qu'on peut dire que plus de 50% de chocolat sont vendus en période de Noël. 15-20% sont vendus après en période de Pâques et puis après toute l'année. Mais il faut dire aussi que de plus en plus, le chocolat est un produit cadeau qui s'offre toute l'année. Voilà,
c'est quelque chose c'est vraiment devenu faire. Maintenant. Oui, vraiment, ça fait partie des mœurs. Et je crois vraiment, on peut dire de plus en plus. Alors, il faut peut-être préciser, Catherine Khodorowski, ce que c'est que le chocolat. Ce qu'on appelle le chocolat, c'est un mélange de cacao et de sucre. Alors, d'un sucre de plus ou moins bonne qualité, dans tout ça dans des proportions variables, bien entendu. Mais le cacao lui-même, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous.
Oui, le cacao, c'est un produit qui vient du cacaoyer, l'arbre. L'arbre qui ne pousse que dans les régions où il fait chaud et humide, il faut le dire, autour de l'équateur, en gros. Alors, c'est un arbre très particulier parce qu'il est très difficile, hein. Il lui faut du soleil, mais pas trop, de l'humidité, mais pas trop. Souvent, il pousse sur les mêmes terres que le café. On peut dire que c'est un cousin.
Cousin du café,
un
c'est
cousin,
ça, hein.
Voilà. Alors, ce cacao, on l'extrait de la graine du cacaoyer qui s'appelle la fève. Et dans cette fève, il y a deux matières. Il y a une matière sèche, qui est le cacao, et une matière grasse, qui est le beurre de cacao. Alors, c'est important parce qu'effectivement, la définition légale du chocolat, c'est le cacao plus le sucre. Et il faut dire que, à l'origine, chez les Aztèques, le cacao était une épice. Les Aztèques ne connaissaient pas le sucre, il faut se le dire. Donc, ils ne connaissaient que le cacao, cette fève qu'ils broyaient.
C'est assez amer, d'ailleurs, hein, qui a un goût un peu particulier.
Alors... Amer, aujourd'hui, on peut dire que quand un chocolat est très amer ou quand un cacao est très amer, ce qui n'est pas forcément de bonne qualité.
Ah voilà. Hein.
Mais pour les Aztèques, c'était effectivement un goût fort, comme une épice, et ils en aromatisaient, alors soit quand on faisait partie du bas-peuple, leur atolé, c'est-à-dire cette purée de farine de maïs qui était leur quotidien, qui ne coûtait pas cher, et quand on voulait y donner un petit peu de goût, on mettait ce cacao. Puis quand on avait les moyens, comme l'empereur Moctezuma, et qu'on voulait avoir des invités, leur offrir un mets raffiné, voire dans des coupes d'or ou dans une carapace de tortue, eh bien on servait une boisson au cacao avec des épices très très fortes.
Alors vous nous parlez d'Aztèques, donc on a bien compris qu'on est en Amérique centrale, hein, on est au Mexique actuel. Les Aztèques sont la grande civilisation du cacao. Les Mayas en avaient consommé avant eux déjà un petit peu.
Alors ouais. Les Mayas, ils n'en consommaient pas vraiment. Ouais. Ils le cultivaient et ils l'utilisaient pour leurs rituels. Ah. Les Mayas avaient des rituels un petit peu sanglants,
oui,
on va
ça,
dire.
Oui, ça on le sait, oui.
Et
il y a quelqu'un qui a dit pour une fois, Franck Ferrand va pas parler de sang, il va parler de chocolat.
Voilà. Alors, on fuit le sujet, mais c'est vrai que les Mayas connaissaient le cacao et le cultivaient essentiellement pour accompagner leur rituel. Par contre, les Aztèques se mettent à aimer cette boisson épicée qui a pour eux aussi un sens, parce que quand ils le préparent, la graisse du cacao, qu'on appelle nous le beurre de cacao, était à la surface et il le faisait mousser avec une branche d'arbre pour que la mousse les rapproche des dieux.
Et il y a donc bien cette dimension quasiment breuvage mystique hein,
divin.
Divin, voilà, c'est ça. Il y a une accession vers une transcendance, vers quelque chose d'autre, qui a d'ailleurs sans doute une raison chimique. C'est-à-dire qu'il y a bien dans le chocolat un certain nombre d'éléments qui favorisent la transcendance, qui favorisent le rêve et la prière.
Pour les Aztèques, cette boisson au cacao avait moult vertus. Tout d'abord, elle était aphrodisiaque, puisque vous savez que l'empereur avait, on va dire, un gynécée, et que pour honorer ses femmes, il en buvait avant, pendant et après. Donc, tout peuple rêvait, évidemment, d'avoir les mêmes mœurs que son empereur. Et puis, il faut dire que le beurre de cacao a toujours eu, déjà, au temps des Mayas et des Aztèques, moult propriétés. Ce beurre de cacao, il soignait les coups de soleil, une piqûre de serpent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bien des baumes pour les lèvres comprennent encore du beurre de cacao.
Alors, comment ce cacao et comment ce chocolat sont-ils arrivés en Europe et après en France, puisqu'ils sont d'abord arrivés par l'Espagne, on va y venir. C'est ce que nous voyons dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
De la BO du film Le Chocolat, une comédie romantique avec Juliette Binoche et Johnny Depp, Franck.
Oui, c'était bien ce film.
Oui, moi aussi j'ai aimé.
Le chocolat. Alors, le chocolat est donc une passion aztèque avant de devenir une passion européenne. Ce sont les conquistadors, hein, ce sont les conquérants espagnols qui vont le découvrir, bien entendu. D'abord Christophe Colomb, le tout premier à le voir peut-être, cette fève de cacao.
Christophe Colomb n'a pas été le premier Européen à avoir goûté le cacao. Mmh. Il a été le premier à avoir vu des fèves c'est de ça. Cacao. C'est-à-dire, il était dans ses navires et le peuple aztèque, gentil, accueillant, arrive avec des pirogues, des sacs de fèves pour lui en offrir. Et Christophe Colomb ne sait pas du tout ce que c'est. Et même dans le récit de ses conquêtes écrit par son fils adoptif, il est écrit qu'ils ont cru que c'était des crottes de bique. Donc c'est pour vous dire à quel point ils n'avaient aucune idée de ce que pouvaient être les fèves de cacao.
Et l'empereur lui-même, Charles Quint, va passer à côté lui aussi. Hein, dans un premier temps, c'est pas son...
Et oui, parce que, alors, en Espagne, bien sûr, on ne connaissait pas les fèves de cacao. Il a fallu attendre l'arrivée de Hernán Cortés en avril 1519 pour découvrir les fèves de cacao. Et cet Hernán Cortés, fruit du hasard, va arriver... Le jour où, dans tous les codex, ces livres anciens, on avait prédit l'arrivée de Quetzalcoatl, le dieu, le serpent à plumes, vénéré chez les Aztèques, puisque c'était celui qui avait fait connaître le cacaoyer. Il arrive le même jour, le jour où c'était écrit dans les textes. Donc, on le prend pour un dieu. On
lui offre... Il est bien tombé, Cortés.
Et oui. Voilà, on lui offre cette boisson au cacao dans des coupes en or. Et là, Cortés goûte cette boisson qu'il recrache, qu'il n'aime pas du tout. Mais il prend conscience que cette boisson était précieuse. Et savez-vous pourquoi elle était d'autant plus précieuse? C'est que les fèves de cacao, chez les Aztèques, étaient aussi une monnaie. Imaginons-nous aujourd'hui un arbre sur lequel poussaient des euros. Vous imaginez? Eh bien voilà, chez les Aztèques, les fèves de cacao servaient à payer ses impôts. Donc Hernán Cortés tout de suite comprend que là, il peut devenir très riche. Avoir une plantation de cacaoyers, c'est être très riche. Vous vous rendez compte? Hernán Cortés a du sang sur les mains puisqu'il a exterminé les Aztèques. Mais il a tout de suite compris qu'il fallait développer la culture du cacaoyer.
Et très vite, les Espagnols vont l'accommoder, ce cacao. C'est-à-dire qu'ils le présentent d'une façon plus aimable, plus goûteuse, en quelque sorte.
Et oui, parce que la recette aztèque, et d'ailleurs, si vous allez au Mexique, vous voyez bien qu'on aime là-bas les nourritures épicées, fortes en bouche. Eh bien, pour les Espagnols qui débarquaient et dont le breuvage le plus puissant, c'était leur vin du soleil, cette boisson... Et d'ailleurs, quand on lit leur récit de voyage, ils disent « Cette boisson a un goût d'eau de vaisselle et d'auge à cochon ». C'est comme ça qu'ils l'expriment. C'est pour vous dire que vraiment, ils ne l'aiment pas. Et quand ils n'avaient plus de vin en réserve dans leur navire, ils ont bien été obligés de s'y mettre à cette boisson au cacao. Et là, ils l'ont adouci. C'est-à-dire, ils ont mis de la vanille et ils ont fait venir la canne à sucre des Antilles. Parce que les Aztèques ne connaissaient ni la vache, donc, ni le lait, pour le rendre plus moelleux en bouche et ne connaissaient pas le sucre.
Alors là, d'un seul coup, on a une boisson qui devient, qui présente des caractéristiques assez particulières et qui en plus est sucrée, est vanillée, a un côté très onctueux. Ça va faire fureur, ça va beaucoup plaire aux Espagnols.
C'est très à la mode.
Eh oui.
Et c'est tellement à la mode que ces Espagnols qui se sont installés et qui ont donc une sorte de colonie qu'ils vont appeler la Nouvelle-Espagne, Ils en boivent partout. Les dames qui vont à la messe, eh bien, elles se font servir leur chocolat chaud pendant la messe. Il faut dire que la messe durait très longtemps à l'époque.
Oui, quand il y avait des très longs sermons, notamment au moment du carême, mais théoriquement, en carême, au moment du carême, on n'a pas le droit de manger de quoi que ce soit de gras. Or, ce qui est incroyable, c'est que le chocolat est déclaré maigre. C'est un peu un comble. Et donc, on peut manger du chocolat à tout moment, même en carême.
Alors, ça a été une grande bataille. Le pape s'y est mis. Il a fallu qu'il édicte une bulle. Je ne sais pas si elle était en chocolat, mais en tout cas, effectivement, on s'est posé la question. Le chocolat allait rompre ou non le jeûne. Et ça a duré des années, des années. Heureusement, quand on boit un bon chocolat chaud, ça ne rompt pas le jeûne.
Finalement, Yves Turiez, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous, quand on pense au chocolat, c'est un chocolat solide ou sous forme de ganache, etc. Mais pendant très longtemps, le chocolat, c'est une boisson. Et ça le reste un peu quand même dans certaines maisons.
Oui, bien sûr, ça a été une boisson, d'autant plus quand elle est arrivée, bien sûr, de chez les Mayas ou les Incas, c'était une boisson. Mais elle est devenue un produit solide au 16e ou 17e siècle, quand on a trouvé la machine qui permettait de faire du chocolat. Et pour moi, le chocolat, je le vois d'une façon peut-être différente, bien sûr. C'est la conjoncture idéale entre le travail de la nature, entre la nature et le travail de l'homme, qui a donné le chocolat. C'est toutes ces choses-là qui ont donné le chocolat merveilleux.
Le miracle du chocolat est arrivé en Europe par les Espagnols, mais c'est évidemment, comme toujours, à Paris qu'il va devenir une véritable fureur.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck aujourd'hui sur Europe 1 qui nous fait revivre l'arrivée du chocolat en France.
Ah oui, en fait le chocolat avait atteint l'Italie avant la France et c'est d'ailleurs là qu'il a peut-être trouvé sa plénitude en quelque sorte. Mais il arrive en France dans les bagages de deux reines. D'abord l'épouse de Louis XIII, bien sûr, Anne d'Autriche, et puis sa nièce, c'est-à-dire l'épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, puisque successivement, et Louis XIII et Louis XIV ont épousé des infantes d'Espagne. Et donc vous imaginez bien qu'elles arrivent avec leurs servantes et avec des habitudes. Marie-Thérèse notamment se fait suivre en permanence par une femme de chambre qui s'appelle la Molina et qui lui prépare son chocolat à l'espagnol, c'est-à-dire un peu comme on l'a expliqué tout à l'heure, en mettant toutes sortes d'ingrédients de vanille, etc. Cette espèce de boisson devient évidemment le must. Vous imaginez qu'à la cour de France, à Saint-Germain-en-Laye notamment, toutes ces dames veulent avoir la même boisson que la reine. Et alors on découvre ce chocolat, c'est merveilleux, c'est délicieux. Et puis après le départ de la Molina, c'est une autre espagnole qui s'appelle Filipa qui va conserver la recette et qui continue à fabriquer du chocolat. Mais comme le premier médecin du roi a estimé que le chocolat, ça change beaucoup, hein, les médecins ont des avis très tranchés, très pour et puis très contre le chocolat. À partir du moment où le premier médecin a décidé que le chocolat n'était pas bon, la reine se met à boire du chocolat en cachette. Alors les dames en font autant et on organise des petites réunions en cachette pour déguster cette nouvelle boisson qui du coup devient vraiment la dernière boisson à la mode. Madame de Sévigné écrit à sa fille, toujours, « Avant-hier, je pris du chocolat pour digérer mon dîner, afin de bien souper mon dîner. » Vous savez qu'à l'époque, c'était ce que nous appelons, nous, le déjeuner, donc au milieu de la journée, « afin de bien souper. Et j'en prière pour me nourrir et jeûner jusqu'au soir. » Voilà de quoi je le trouve plaisant, c'est qu'il agit selon l'intention. De temps en temps, il vous nourrit et de temps en temps, au contraire, il vous permet de digérer. Vous ne vous portez pas bien, écrit Madame de Sévigné à sa fille, alors le chocolat vous remettra. Vous n'avez point de chocolatière, j'y ai pensé mille fois, mais ma fille, comment ferez-vous? Eh oui, elle a quitté Paris sans prendre de chocolatière et Madame de Sévigné se dit que d'ici de Paris à Grignan, elle ne trouvera pas ce petit récipient bien pratique et qui permet de préparer le chocolat. Une véritable drogue, vous voyez. Alors, évidemment, je vous ai dit, certains médecins, c'est toujours comme ça, et notamment à la cour de France, vont commencer à trouver que le chocolat n'est pas bon, que c'est un échauffant, qu'il gâte les dents, etc. Et voilà ce qu'écrit, 3 ans après la lettre que je viens de vous lire, Madame de Sévigné. « Je veux vous dire, ma chère enfant, que le chocolat n'est plus avec moi comme il était. » La mode m'a entraîné comme elle fait toujours. Tous ceux qui m'en disaient du bien aujourd'hui m'en disent du mal. On le maudit, on l'accuse de tous les maux qu'on a. Il est la source des vapeurs et des palpitations. Il vous flatte pour un temps, puis il vous allume tout d'un coup une fièvre continue qui vous conduit jusqu'à la mort. Elle est dans une modération totale, cette Madame de Sévigné. Au nom de Dieu, ma fille, ne vous engagez point à le soutenir et songez que ce n'est plus la mode du bel air. C'est fini, le chocolat a passé de mode. Et elle écrit un peu plus loin. tous ces effets miraculeux, parce que sa fille lui dit « Mais non, ma mère, moi j'ai pris du chocolat, je m'en sens très bien. » Tous ces effets miraculeux dont vous me parlez, ne nous cacheront-ils pas quelque embrasement ? J'aime le chocolat, comme vous savez, mais il me semble qu'il m'a brûlé, et de plus, j'en ai entendu dire le pire. Mais vous dépeignez si bien les merveilles qu'il fait sur vous, qu'après tout, je ne sais plus que penser. » Nous lisons dans le Mercure Galant, c'est la description en 1682. Vous savez que la cour de France s'installe à Versailles en mai 1682 et que trois fois par semaine, le roi organise ce qu'on appelle les soirées d'appartement. C'est-à-dire que toute la cour est sommée de venir s'amuser sur commande dans le grand appartement du château de Versailles. Et bien, figurez-vous que dans le salon de l'abondance où sont servis les rafraîchissements et les collations, le chocolat coule à flot. Jusqu'en tout cas, jusqu'au 25 novembre 1693, car ce jour-là, retour de Fontainebleau, le roi décide de supprimer le chocolat sur les buffets parce qu'il trouve tout simplement que ça coûte trop cher. C'est une décision de Chamillard. Et puis en 1705, l'état des finances étant de plus en plus précaire, vous savez que la fin du règne de Louis XIV est l'histoire d'une lente érosion des finances françaises, eh bien le roi cesse carrément de fournir du chocolat aux invités qu'il emmenait à Marly. Et c'est dommage parce qu'on disait qu'à Marly, on buvait le meilleur chocolat, donc pour tout le monde, c'est une très mauvaise nouvelle. La faculté a approuvé le chocolat de la manière la plus officielle, en séance solennelle, en 1661. Les médecins ont accueilli le chocolat avec sympathie, en tout cas beaucoup plus de sympathie que le café, qui à l'époque est considéré comme une boisson tout à fait néfaste. Rien de plus nourrissant que le chocolat, dit l'Académie. Mais attention, parce qu'il peut de temps en temps échauffer la bile et créer des humeurs pécantes, c'est-à-dire des humeurs malignes ou viciées. Alors là encore, les médecins vont se disputer. Andry estime que le chocolat est un souverain un remède contre la phtisie à Blombon. Je vous ai parlé tout à l'heure de cet autre médecin de la faculté de Paris qui donc va soutenir sa thèse en mars 1684 et qui nous dit que le chocolat est littéralement la nourriture des dieux. D'autres ne sont pas d'accord. Il y a un médecin qui s'appelle Duncan, je ne dis pas Ducan, il s'appelle Duncan à l'époque, qui propose toutes sortes de régimes, vous voyez on est au XVIIe siècle, et qui lui proscrit absolument le chocolat. Et pour quelle raison le proscrit-il ? Eh bien parce qu'il s'agit d'une boisson chaude tout simplement, et qu'à son avis, les boissons chaudes, qu'il s'agisse du thé, du café ou du chocolat, sont absolument à proscrire. C'est très amusant la médecine de l'époque quand même. Il y a peu de temps qu'une femme de qualité, écrit Madame d'Aulnoy, au tournant du XVIIIe siècle, ayant lieu de se plaindre de son amant, elle trouva le moyen de le faire venir dans une maison dont elle était maîtresse, et après lui avoir fait de grands reproches dont il se défendit mollement, parce qu'il les méritait, elle lui présenta un poignard et une tasse de chocolat empoisonné, lui laissant seulement la liberté de choisir son genre de mort. Alors on dit que l'amant en question a simplement pris froidement le chocolat, qu'il l'a bu jusqu'à la dernière goutte, n'en a pas laissé dans la tasse, et après l'avoir bu, il a dit à sa maîtresse « Ce chocolat aurait été meilleur, madame, si vous y avez mis plus de sucre, car le poison le rend amer. Souvenez-vous-en pour le premier que vous accommoderez. » Et je cite Madame d'Aulnoy, les convulsions le prirent presque aussitôt. C'était un poison très violent et il ne demeura pas une heure à mourir. Cette dame, qui l'aimait encore passionnément, eut la barbarie de ne pas le quitter qu'il ne fût mort. » C'est étonnant de voir, Catherine Khodorowsky, à quel point ce chocolat est au cœur de toutes les passions du XVIIe et même du XVIIIe siècle. On sait que Madame de Pompadour, que Louis XV trouvait pas très efficace au lit, c'est littéralement gavé de chocolat ambré. Hein. C'est la façon dont on le buvait à l'époque.
Et oui, on disait d'elle qu'elle était froide comme une macreuse. Oui, vous voyez l'expression.
Le petit oiseau tout froid.
Voilà. Mais quand on lit effectivement les lettres de Madame de Sévigné, qui a été la première chroniqueuse de mode finalement.
Oui, c'est ça. Hein,
et qui raconte tout ce qui se passait, tout ce qu'on disait. Il y a une anecdote qui est très croustillante. Quand elle écrit à sa fille, à Madame de Grignan, qui est enceinte, elle lui dit à ma fille, n'abusez pas trop de chocolat, parce que la marquise de Couette-Logon en a tellement bu quand elle était enceinte, qu'elle a accouché d'un petit enfant noir. Ce qu'on oublie de dire à l'époque, c'est que le fin du fin, c'était d'avoir un serviteur noir qui apporter le chocolat. Oui. Et c'est vrai que à toute époque,
ça faisait partie de l'exotisme.
Ça faisait partie de l'exotisme. Et puis je dirais que c'est cette culpabilité. La gourmandise est un péché. Donc quand on se fait du plaisir, on doit être puni.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Wonka, les deux grands chocolatiers. Willy Wonka, Willy Wonka, tout le monde veut l'acclamer. Sa modestie, son élégance, il ne peut s'en départir. Sa grande générosité, pas moyen de la contenir. La contenir, 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 contenir.
Willy Wonka, extrait de la BO de Charlie et la chocolaterie, un film de Tim Burton. Franck, et les réactions vous parviennent, elles sont extrêmement nombreuses.
Énormément de réactions, alors j'en prends quelques-unes. Geneviève qui me dit qu'il ne faut pas oublier que le mot vient du Quechua, Cocoatl, oui justement, hein, donc c'est civilisations précolombiennes qui ont mis le chocolat là où il est aujourd'hui. Patrick Roger n'est pas seulement un animateur d'Europe 1, nous dit Renard, c'est aussi un grand chocolatier. Merci pour cette émission appétissante qui me rappelle, nous dit Stéphanie, les bonnes ganaches que préparait mon grand-père pâtissier. Il y a toujours cette dimension de souvenir et de retour à l'enfance aussi, hein, bien entendu, dont vous parlez vous-même, Catherine Kodorowski. Et puis alors Emmanuel nous dit, vraiment trop fort cette émission sur le chocolat, etc. Je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y a énormément de réactions, mais c'est bien la preuve que le chocolat fait partie intégrante de la vie de nos auditeurs, que ça fait partie de ce qui améliore la vie, de ce qui l'enjolive en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que le chocolat est un, comment est-ce qu'on pourrait dire, est un élément bénéfique, Yves Turiez?
Bien sûr, c'est un élément bénéfique. Vous savez, on sait déjà que c'est un décapeur des artères. Ah oui. Le chocolat est un produit, avec le beurre de cacao est un produit qui fond à 24 degrés, donc notre corps étant plus chaud, le chocolat, quand on consomme du chocolat, on se décape les artères. Alors que contrairement, souvent, on croit que le chocolat encrasserait les artères, c'est tout à fait le contraire qui se produit. Je dis bien le bon chocolat. Le chocolat, bien sûr, au vrai beurre de cacao.
Oui, bien sûr. Alors Catherine Kodorowski, vous avez écrit votre ouvrage Tout sur le chocolat aux éditions Odile Jacob avec le docteur Hervé Robert. Il est tout à fait de votre avis, Yves Turiez. Écoutez ce que dit le docteur Hervé Robert.
Le sucre contenu favorise à l'intérieur du corps la sécrétion de sérotonine. C'est une substance chimique qui donne une sensation de bonheur, de bien-être, de détente. Le chocolat fait aussi sécréter dans notre cerveau les endorphines, c'est un peu une espèce de morphine interne que notre corps s'est fabriquée et qui donne une sensation de bien-être, d'euphorie.
C'était le docteur Robert sur Europe 1 le 28 octobre 2010. Donc en fait, on peut consommer du chocolat presque autant qu'on veut, Catherine Kodorowski, si on vous écoute tous.
Ah, tout à fait. Mais du bon chocolat, effectivement, comme nous l'a préconisé Yves Turiez, du bon chocolat, on ne fait un bon produit qu'avec des bons ingrédients. C'est la règle d'or de la gastronomie et de la cuisine. Et ça veut dire qu'il faut du chocolat avec du beurre de cacao. Il y a une directive européenne qui autorise les fabricants de chocolat à mettre jusqu'à 5% du poids total du chocolat avec une autre graisse. Or, on sait que le beurre de cacao est une bonne graisse pour la santé, puisqu'il favorise le H-cholestérol. Donc tous ceux qui s'imaginent ne pas manger du chocolat parce qu'ils ont du cholestérol, parce qu'ils ont peur de grossir, parce qu'ils seraient constipés, parce qu'ils ont des caries ou de l'acné, etc. Tout ça, c'est absolument faux.
Des légendes.
Non seulement c'est bon pour la santé, mais en plus ça nous rend euphorisants, donc heureux. Donc mangeons et partageons le bon chocolat.
Alors, il faut que nous en venions au chocolat tel que nous le connaissons, c'est-à-dire le chocolat en tablette. Ça, c'est une invention, on va dire, du premier tiers de la moitié du 19e siècle. Révolution totale, parce que jusqu'ici, on le buvait seulement, le chocolat. Et d'un seul coup, on se met à le croquer.
Et oui, c'est que le problème, quand on a écrasé nos fèves de cacao à la chaleur, on a une pâte un peu grossière qui ne se tient pas quand on veut la mouler. Et le seul moyen de faire en sorte que cette pâte devienne solide, voire brillante, c'est de rajouter du beurre de cacao. Or, le monsieur qui a inventé la technique pour extraire le beurre de cacao de ce mélange de cacao et de beurre de cacao, donc cette pâte de cacao, c'est monsieur Van Houten. Et en 1825, il prend des presses hydrauliques, et comme on le fait pour les olives, pour avoir l'huile d'olive, il va presser les fèves à chaud, et là, l'huile, ce qu'on appelle le beurre de cacao, va sortir, et grâce à cette invention tout à fait capitale pour la fabrication du chocolat, on peut rajouter du beurre de cacao à cette masse de cacao, le mouler, pour que cette masse se tienne. Ce sont les Anglais qui, les premiers à Londres, vont mouler le chocolat. Et le premier industriel en France qui a sorti ces mini-tablettes qui vont régaler tous ses enfants au sortir de l'école, c'est Meunier.
Nous saluons Isabelle Meunier qui aime bien le chocolat, je le précise.
Et bien voilà, petite tablette allongée que les enfants, à la fin du 19e siècle, nous sommes à l'époque des lois Ferry où l'école devient obligatoire. Donc les enfants, le matin, prennent un petit déjeuner, un bol de lait et vont mettre la poudre de cacao Poulain, le premier à faire cette poudre de cacao pour le petit déjeuner. Et les enfants sortent en fin d'après-midi et vont enfoncer cette petite tablette de chocolat dans un quillon de pain, ancêtre de notre pain au chocolat.
Finalement. Ils ont inventé le pain au chocolat, les écoliers du 19e siècle, les premiers écoliers de Jules Ferry notamment.
Absolument, l'école est obligatoire.
Avec des barres chocolatées dans leur pactage le matin.
Et oui, parce que la France était rurale et il n'y avait pas une école communale dans chaque village à l'époque. Et les enfants parfois faisaient 4 ou 5 kilomètres à pied et donc emportaient dans leur panier, comme l'image de Bécassine ou l'image de la petite fille Meunier, cette petite tablette de chocolat qu'ils allaient enfoncer dans leur quignon de pain.
Vous parliez des usines Poulain qui naissent en 1847 à Blois. Je me rappelle étant petit être allé visiter ces usines du chocolat Poulain, c'était extraordinaire. Et quand on arrivait en train à la gare de Blois, ça sentait le chocolat jusque dans les voitures.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Le TGV Expo, les secrets du chocolat, est aujourd'hui dans votre gare, voie 15. Il fera étape à praline, noisette, pistache, violette et ganache. Correspondance pour l'histoire du cacao et la fabrication du chocolat. Son accès est libre et gratuit de 9h à 19h. Ne le manquez pas.
La voix de la chère Simone qui fait les annonces en gare à la SNCF et qui annonce ce TGV du chocolat. Bonjour Michel Fremder.
Bonjour.
Vous êtes l'homme des trains exposition. Nous en avons fait un certain nombre ensemble d'ailleurs, train Léonard de Vinci au train littérature. En l'occurrence, ça n'est pas un train exposition, c'est un TGV que vous nous proposez cette fois.
Oui, c'est une première mondiale. C'est la première fois que la SNCF met sur rail un TGV, un train à grande vitesse, pour justement présenter une exposition. C'est-à-dire qu'on laisse augurer que pour les industriels futurs, ils vont pouvoir aller présenter leurs produits dans les gares vis-à-vis de leurs prospects, de leurs clients.
Alors là, il est tout dégoulinant de chocolat, si j'ose dire. Vous l'avez habillé, ce TGV, il est méconnaissable. D'ailleurs, on en a, nous, un exemplaire en chocolat, ici
en miniature,
même, en miniature, que j'ai offert à Julia. Pour l'instant, il est resté intact depuis le début de l'émission.
Je suis sûr
qu'il le reste, voilà, exactement. C'est l'objectif. Oui, c'est vrai qu'on l'a habillé en chocolat. C'est assez étonnant, parce que ce matin, puisqu'il est à la Gare du Nord depuis ce matin, il sera dans les 6 gares parisiennes au fur et à mesure. De nombreux voyageurs s'arrêtaient, sortaient leur appareil, leur téléphone et photographiaient ce TGV exceptionnel. Il est habillé en chocolat. C'est un TGV, c'est une rame entière en chocolat.
Alors qu'est-ce qu'on voit dans le TGV ? Il y a une expo, j'imagine, il y a des animations.
Oui, il y a une exposition. C'est toute l'histoire du chocolat. Ce que vous venez de faire depuis le départ de l'émission, eh bien, en fin de compte, vous allez le retrouver au fur et à mesure des 8 voitures, puisqu'il y a 8 voitures. Et puis surtout, il y a beaucoup d'animations. Il y a des démonstrations de chocolat.
Avec Yves Turiès qui sera là. Hein.
Absolument. Le doublement meilleur ouvrier de France sera à bord, montrera ses secrets, certains de ses secrets. Et puis, il y a des appareils tout à fait exceptionnels. Je veux dire, ce TGV a été réalisé sous l'instigation, avec le concours d'un homme que j'ai découvert. C'est un TGV de découverte qui s'appelle Jean-Paul Burus, qui est le président du musée du chocolat.
Qui est en régie, là, qui nous observe en ce moment
tout
même.
Tout à fait. Mais il a fait venir une machine exceptionnelle qui vous permet de vous prendre en photo et vous repartez avec votre tablette en chocolat, chocolat blanc, avec des encres alimentaires dessus qui sont imprimées. C'est exceptionnel. Je ne vous cache pas que, comme cadeau de Noël, c'est formidable.
Alors ce train du chocolat, ce TGV, attention, ne nous trompons pas, il va d'abord faire toutes les gares parisiennes, là, et puis ensuite il s'en va dans le sud de la France. Hein,
oui,
c'est bien ça.
Il s'en va dans le sud de la France, il s'en va faire 6 gares dans le sud de la France, il part à Montpellier, Toulouse, Narbonne, Perpignan et Avignon, il passera 2 fois à Montpellier, et ce train est fait en soutien à une association qui s'appelle SOS Rétinite. C'est une maladie orpheline, SOS Rétinite est dirigée par une femme exceptionnelle, ça a été une des grandes rencontres vraiment de ma vie professionnelle. Cette personne qui elle-même est atteinte de cécité avec cette maladie orpheline défend formidablement son association et Jean-Paul Burus a accepté et la SNCF avec elle que toute cette opération et les bénéfices de cette opération soient réalisés au bénéfice de SOS Rétinite.
Alors si j'en crois tous les messages qui nous sont arrivés pendant le cours de cette émission et qui avaient même commencé avant même l'émission, je pense qu'il va y avoir du monde pour visiter ce TGV. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, Michel Fremder. D'où vient cet espace ? espèce de fascination générale. C'est incroyable, Catherine Khodorowsky. On a l'impression que le chocolat, maintenant, est vraiment devenu une sorte de talisman pour les Français. Depuis combien de temps, à peu près? 20 ans? C'est une idée à moi ou c'est...
Dans les années 1980,
oui, voilà.
La France a été, je vais pas dire envahie, mais presque par le chocolat belge. Et il y a une réaction des artisans français qui ont voulu prouver qu'eux aussi faisaient du bon chocolat. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à manger le chocolat plus noir en France, moins sucré. Il faut dire que Gaston Lenôtre a quand même été précurseur du désucrage, si je peux dire, et de la pâtisserie et de la confiserie. Et puis surtout, on a commencé à parler du chocolat comme pour le vin, en parlant de ses origines. Un vin en France, on va parler de sa région, des cépages, voire de l'année de sa récolte. Eh bien, le chocolat est entré dans la cour de la gastronomie à partir des années 1980-1990. Et là, on va commencer à parler de l'origine du cacao, du nom de la plantation et parfois même de l'année de la récolte des fèves de cacao.
Alors là, maintenant, il faut vraiment être un grand spécialiste. C'est comme les œnologues qui connaissent les millésimes, mais maintenant, il y a des millésimes de cacao. Vous êtes partie prenante de ce mouvement des artisans français pour un retour au vrai chocolat, en quelque sorte, Yves Turiez. Comment est-ce qu'on fabrique du chocolat? Vous pouvez nous expliquer ça en quelques mots?
Bien, le chocolat part d'abord d'un produit qui ne serait pas consommable. La fève de cacao ne serait pas consommable par l'État si on n'y faisait rien. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la conjoncture entre le travail, entre la nature et le travail de l'homme. Telle qu'est la fève au départ, elle n'est pas consommable. C'est un produit qui ne pourrait pas se consommer comme ça. Mais la fève, donc, elle est séchée dans les plantations. Ensuite, elle est amenée, elle arrive chez nous et dans nos usines spéciales où on fait le chocolat, comme le boulanger fait le pain, mais il ne fait pas la farine. Et nous, la plupart des chocolatiers, on fait les bonbons, on fait les chocolats. Mais évidemment, on ne broie pas, on ne fait pas notre matière première, chocolat. Donc ce sont des couverturiers qui nous font ce genre-là. Et là, c'est justement c'est le matériel qui, au fur et à mesure, depuis le XVIIIe siècle, nous a permis de faire le chocolat et d'avoir ce produit qui, maintenant, est un produit solide. Alors qu'au départ, bien sûr, ça n'était qu'un produit liquide. Et ça nous permet de le travailler de différentes façons, avec des parfums, avec des arômes. Ça, c'est le travail du chocolatier.
Merci beaucoup Yves Turiez, deux fois meilleur ouvrier de France. Et donc, on va vous retrouver sur ce TGV du chocolat qui est inauguré ce soir à la gare du Nord, qui va se promener dans toutes les gares de Paris. Et on pourra visiter ce TGV jusqu'au 4 décembre prochain. Merci Michel Fremder d'être venu non seulement nous parler du TGV, mais nous donner envie et idée de parler du chocolat aujourd'hui. Visiblement, ça a fait plaisir à beaucoup de monde. Il faudrait parler, bien sûr, d'un certain nombre de grands maîtres. Parmi les très grandes maisons, il y a la marquise de Sévigné, puisqu'on parlait tout à l'heure de Madame de Sévigné, hein, qui a été l'une des premières à promouvoir le chocolat au XVIIe siècle. Et bien, cette grande maison de la place de la Madeleine, qui a un peu essaimé depuis, est partenaire de ce TGV du chocolat. Et puis, je tenais à signaler l'apparition aux éditions Ramsay d'un ouvrage de Christian Constant, un de vos grands confrères, qui s'appelle « Du chocolat, discours curieux », avec une préface de Sonia Riquiel et qui reprend dans toute la littérature tous les grands morceaux d'anthologie consacrés au chocolat. Et Dieu sait que ce chocolat a inspiré beaucoup d'auteurs. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Catherine Khodorowsky, avec le docteur Hervé Robert, aux éditions Odile Jacob. C'est tout simplement Tout sur le chocolat. Et je pense que nos auditeurs ont compris depuis presque une heure maintenant que vous étiez effectivement absolument incollable sur le sujet.